Je suis Patrick Mignon, sociologue à l'INSEP, et donc sociologue du sport de haut niveau. Et je rappellerai sur ce thème que, en faisant un peu référence à la première partie, à la première plénière, là, de faire le constat de la difficulté à quantifier les questions qu'on se pose à propos du sport de haut niveau. Je crois que entre les estimations qui varient entre 15 et 65% pour le diagnostic des troubles de comportement alimentaire, entre la haute fréquence des personnes qu'on reçoit éventuellement dans les consultations, tout ça nous permet à la fois d'éveiller sans doute les consciences à des problèmes qui existent, mais en même temps avec quelques petits inconvénients du côté de la possibilité de simplement généraliser, tenir des propos qui soient admissibles d'un point de vue scientifique, par exemple. Donc je crois que et cette question de la précarrière, j'en ferai un petit peu, excusez-moi, là, je profite de la prise de pouvoir du micro là, pour donner quelques éléments. Je peux témoigner de la grande difficulté concernant cette question. Alors, je vais te reprendre un exemple INSEP. L'INSEP a produit en 1998 une enquête sur la question du devenir des sportifs de haut niveau. Une enquête est très artisanale parce qu'elle se heurte à des problèmes très très, très, très simples. C'est comment retrouver les gens. Donc, y a vraiment des dispositifs assez sophistiqués à mettre en place pour pouvoir effectivement dire vraiment ce qui se passe après la carrière. Or, justement, question que je me pose, mais je sais que du côté de Frank Heisenberg, il y a un dispositif qui avait été mis en place à partir du CAP, donc qui permet d'avoir des éléments qui sont plus crédibles, mais c'est un premier problème. Et ce problème, je dirais, il est lié, alors, déficit de connaissances est évident. Deuxièmement, c'est plus une interrogation qui pourrait être une sorte d'accusation, c'est se donne-t-on les moyens de connaître effectivement ce qu'est la réalité du sport de haut niveau ? Il est vrai que la population à laquelle on s'intéresse est petite, c'est pas grand monde, si on prend aujourd'hui les gens qui sont sur la liste de haut niveau, ça fait 6 000 personnes, si on prend les gens qui sont dans les filières, ça fait 17 000, si on ajoute à ça les sportifs professionnels, dont une partie sont sur la liste de haut niveau, mais une autre partie n'y est pas, et qui sont, disons, qu'on évalue, je crois, à 4 ou 5 000, ça nous fait une petite population. D'où, effectivement, la grande difficulté à... Alors, elle devrait être facile à cerner, mais justement, elle est très difficile à cerner. Il est très, très difficile de monter des enquêtes systématiques sur, effectivement, ce qu'est être aujourd'hui un sportif de haut niveau, ou un sportif d'élite, un sportif professionnel. Donc là, je pense que on n'est pas dans la psychopathologie, on serait plutôt dans la tentative de quantifier la pathologie par rapport à une population qu'on va dire normale, parce que finalement le sport, jusqu'à preuve du contraire, est une activité sociale normale, elle n'est pas interdite. Donc je veux dire, on s'y livre avec toutes les bénédictions possibles de la société. Donc par rapport à ça, je dirais la question de l'appréciation du pathologique et du normal dans cette affaire est importante, mais très très difficile à mettre en œuvre. Alors, c'est fini, et je cède donc la parole pour cette première intervention à Frank Heisenberg, et alors le S, j'ai Sophie, Suzanne, Sylvie Maurice-Tison, merci. Donc pour une vingtaine de minutes, voilà.
Bonjour, donc nous allons vous présenter à deux voix les difficultés psychologiques en post-carrière. Donc à deux voix, Frank Heisenberg du Centre d'accompagnement de prévention pour les sportifs du CHU de Bordeaux, qui est organisateur de cette première journée, et moi je suis médecin en santé publique à l'ISPED, dans l'université qui vous accueille aujourd'hui. Donc cette intervention, on en a changé le titre hier soir, on se disait que finalement fin de carrière c'était mieux que post-carrière. Et l'idée, c'est de vous présenter à deux voix et en parallèle deux études qui ont des points communs. L'étude de Krebs qui date de 2004, qui concernait des pensionnaires du Krebs entre 87 et 95, interrogés entre 10 et 15 ans plus tard sur 10 disciplines. Et l'étude Proval à laquelle j'ai pu directement participer, qui vient de se dérouler en 2006, Proval, il va falloir dire ce que c'est, pour ceux qui l'ignoreraient, donc Franck vous en reparlera. Étude qui concernait les anciens joueurs de rugby professionnels, français ou étrangers, qui ont eu un dernier contrat pro entre 2000 et 2004. Un des points communs de cette étude, de ces deux études, c'est qu'elles permettent de quantifier, puisqu'elles se sont basées sur des questionnaires auto-administrés, 160 dans l'étude Proval, 150 au CREPS, et qui concernaient 73 arrêts de carrière. Et elles ont aussi un aspect qualitatif qui va être tout à fait intéressant, qui est celui des entretiens individuels. Donc, Proval.
Pour rebondir sur Proval, donc Proval est le syndicat des joueurs professionnels de rugby. Donc il y avait commandité cette étude et pour parler un peu, pour très rapidement parler un peu de ces deux études qui sont deux études que nous avons réalisées donc, et qui n'avaient pas forcément des objectifs strictement identiques puisque la première étude du CREPS, grosso modo l'idée c'était de retrouver des anciens pensionnaires de ces filières d'accès au niveau 10 ou 15 ans après leur sortie du CREPS et savoir ce qu'ils étaient devenus. Dans des domaines très variés, hein, aussi bien sportifs que professionnels, scolaires, ainsi de suite. Alors que l'étude Proval était initialement plus axée sur l'étude des problématiques de reconversion. Si on vous les présente aujourd'hui de manière conjointe, c'est parce que les deux nous ont permis d'aborder cette problématique de l'arrêt de la carrière pour certains des anciens pensionnaires du CREPS et pour la totalité des anciens pros qui ont participé à l'étude Proval. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Patrick Mignon. Effectivement, d'ailleurs, je comptais pas forcément en parler, mais effectivement, une des grandes difficultés pour nous, ça a été justement de retrouver ces sportifs-là. Et c'est ce qui explique à la fois notre intérêt sur cette question et de mon point de vue l'intérêt de ce type d'études, c'est qu'il y a finalement assez peu d'études sur la post-carrière parce que, et c'est aussi un des mécanismes de l'institution sportive, une fois qu'on sort de l'institution sportive, il n'y a plus trop de traces. Et juste pour l'anecdote, pour l'étude Proval, alors que nous nous intéressions à des gens qui étaient sortis du secteur pro, donc quand même de l'élite, entre 2000 et 2004, donc sur une période très récente, on a quand même mis près de 6 mois pour arriver à identifier qui étaient ces joueurs sortis du secteur pro et pour les retrouver.
Le premier résultat, c'était, et qui avait été posé dans les deux enquêtes, comment les sportifs ont-ils vécu l'arrêt de leur carrière ? Et donc, en termes quantitatifs, on a 69%, à peu près 7 anciens rugbyman sur 10 et un petit peu moins au niveau du CREPS qui disent qu'ils ont bien vécu l'arrêt de la carrière. Alors on va revenir tout de suite sur ça parce que s'ils sont aussi nombreux à avoir bien vécu, est-ce que ça vaut le coup de se pencher quand même sur ça ? Qu'est-ce que ça veut dire bien vécu ? Donc tu vas nous redire.
Alors effectivement, l'idée, il y a une sorte de consensus sur les quelques études qui existent sur la post-carrière et puis dans... On va dire que ça relève du sens commun, qu'effectivement l'arrêt d'une carrière sportive intensive et de haut niveau est évidemment un moment assez particulier et potentiellement fragilisant, voire on pourrait dire logiquement fragilisant. Effectivement, ce premier résultat, on pourrait se dire finalement pas tant que ça, puisqu'une grande majorité disent bien l'avoir vécu. Là où il faut modérer ce résultat, c'est d'abord qu'on s'est aperçu que notamment sur les anciens pensionnaires du CREPS, beaucoup disaient « effectivement je l'ai bien vécu », j'ai rencontré pas mal de difficultés. C'est un moment difficile. Mais au final, pour certaines raisons, qu'on développera un peu tout à l'heure, notamment parce que ça a relevé d'un propre choix, parce que je l'avais anticipé, parce que j'y ai réfléchi un peu à l'avance, finalement et globalement, je l'ai bien vécu. Mais c'est malgré de nombreuses difficultés. Donc ça n'invalide pas le fait que la fin de carrière soit un moment difficile. Et l'autre aspect aussi qu'il faut probablement souligner, c'est d'abord que même si une majorité, et avec ses réserves, dit avoir bien vécu cet arrêt, ça fait quand même près d'un tiers des deux populations qui l'ont mal ou très mal vécu. Et les commentaires apportés pour expliquer ce ressenti négatif sont assez lourds de sens et évoquent quand même un traumatisme profond. Il y a énormément de références. Les références les plus fréquentes ou les commentaires les plus fréquents parlent de dépression et parlent de deuil. Donc c'est quand même parle de véritable mal-être, de difficulté à accepter la fin d'un rêve, de difficultés à accepter une nouvelle réalité, voilà, d'une envie féroce qui ronge. Donc quand même des commentaires qui tendent à ne pas invalider le caractère fragilisant de l'arrêt de la pratique.
En ce qui concerne la fréquence des difficultés psychologiques, elle était de l'ordre de 30% sur ces anciens pensionnaires du CREPS 10 ans après. Dans l'étude Proval, ce qui était assez remarquable, c'est que s'il y en avait un quart qui parlait de ces difficultés psychologiques, peut-être qu'on reviendra après sur le fait, et on l'a entendu ce matin, que le sportif, et encore plus le sportif professionnel, est habitué ou dressé à ne pas se plaindre, à ne pas s'écouter et à ne pas faire état de ces difficultés. Ici, ce qui était remarquable, c'est qu'il y en avait 40% qui avaient coché la case « aucune difficulté », et puis qui avaient précisé ce qu'ils entendaient par aucune difficulté, et ont trouvé, si ce n'est un bon coup de blues, si ce n'est une petite dépression pendant 6 mois, si ce n'est, etc., etc. Et donc les si ce n'est et tout ce qu'ils expliquaient comme étant aucune difficulté, on se disait, bien mince, moi si ça m'arrivait, j'aurais coché difficulté physique, psychologique, familiale, professionnelle, j'aurais tout coché. Et là, on sent bien qu'il y a une difficulté à nommer et à appeler difficulté psychologique. Ce qui nous fait dire aussi que c'est pas forcément une sous-estimation, mais en tout cas une estimation basse de difficulté en post-carrière. Toi, tu avais remarqué aussi que dans ce qu'ils appelaient difficulté physique, il y avait pour un certain nombre les blessures à l'origine de l'arrêt de la carrière et qui sont des blessures absolument majeures, comme on peut s'en faire quand même parfois dans le rugby. Donc, beaucoup d'attention sur ces résultats en termes de fréquence, mais surtout, c'est fort probable que ce soit une sous-estimation. Là aussi, une question qui avait été posée et qui est probablement plus facile, parce que c'est plus facile à poser comme question, parce que plus facile à entendre de la part des sportifs, est-ce que vous avez éprouvé un sentiment de manque ? Et ça, c'est vrai que ça sortait très facilement, c'est beaucoup plus facile à exprimer. Donc sur les anciens pensionnaires du CREPS, c'était plus des trois quarts qui parlaient de manque, parlaient de manque de pratique en elle-même, mais qui parlaient aussi du manque de compétition, du manque de notoriété, la vie de groupe, l'ambiance, etc. Alors sur la vie de groupe, il y a des choses qui sont variables en fonction des disciplines, parce qu'il y a à la fois le groupe, même dans les sports individuels et dans l'esprit dans lequel ça se passe, en tout cas les pensionnaires. Dans les cas les plus extrêmes, certains ont dit le sport c'est comme une drogue, donc ça a quand même renvoyé beaucoup à quand même des problématiques d'addiction dont on reparlera. Dans l'étude Proval, on n'a peut-être pas assez dit, on va le redire, qu'elle sera publiée la semaine prochaine, donc vous en aurez tous les détails. Un des tableaux de cette étude détaillait ce qui manquait le plus aujourd'hui aux joueurs. Donc, après sa sortie du secteur professionnel. En soulignant aussi que dans le rugby, beaucoup sont sortis du secteur professionnel, mais pas du rugby. Donc, ce qui leur manque, ça ne va pas être tant la pratique que la pratique à haut niveau. Et là aussi, ça nous renvoie à l'idée que la pratique à haut niveau, avec 2 entraînements par jour, c'est ça qui va manquer à certains quand ils passent l'écrive de 2 entraînements par jour à 2 par semaine. L'esprit village et le rugby de village, c'est bien, mais il y a quand même des choses qui me manquent en termes de défoulement, en termes d'activité physique intensive. Pouvant être considéré comme quelque chose de peut-être supérieur, tu nous disais que c'était aussi quelque chose que les sportifs exprimaient facilement, et c'est vrai qu'ils ont répondu assez facilement à cette question. Est-ce que vous avez éprouvé un sentiment de vide ? Dans l'étude Proval, on posait aussi la question, est-ce que vous avez eu le sentiment de changer de monde ? Donc, sentiment de vide, les 2/3 des pensionnaires du CREPS ayant arrêté. Un peu moins dans l'étude Proval, mais là aussi, imaginez aussi que tous n'ont pas arrêté le rugby. La notion de durée, on l'avait pointée aussi. L'idée que ce vide, ce n'est pas quelque chose de transitoire, ce n'est pas les 15 jours qui suivent. Puisque 43% pour Proval avaient éprouvé quelque chose de cet ordre-là pendant moins de 6 mois et 30% sur 6 mois à 1 an. Donc se sentir vide et en manque pendant 6 mois, voire pour 20% pendant plus d'un an et demi, ça paraît sûrement très important.
Je rebondais juste un point là-dessus pour dire que Ces questions de manque ou de sentiment de vide, ça illustre ce qu'on disait sur la probable sous-estimation des difficultés psychologiques, puisque bon, évidemment, c'est pas forcément très simple, ne serait-ce que d'identifier et a fortiori de reconnaître qu'on a pu rencontrer des difficultés psychologiques, mais quand on voit les proportions, en revanche, d'anciens sportifs, que ce soit anciens pensionnaires du Krebs ou anciens rugbymen pro, qui disent avoir souffert de manque, avoir eu un sentiment de vide, et sur des durées aussi longues, on est quand même dans le registre de difficultés psychologiques, même si ça n'a pas été coché comme tel au moment du questionnaire. Alors c'est évidemment flagrant sur cette notion de manque.
La suite de ça, mais c'est en fait on est en train de discuter du plus petit au plus gros, et c'est vrai que sur le plan médical, on avait aussi posé des questions qui étaient de l'ordre de l'anxiété et de l'ordre des troubles de l'humeur. En posant la question là aussi avec des pincettes, puisque l'anxiété était, vous est-il arrivé d'être anormalement anxieux ? Et rien que cette formulation, quand on la regarde a posteriori, on se dit que anormalement anxieux, ça veut donc dire que c'est un peu normal d'être anxieux. Alors l'anxiété, la performance, vous en avez parlé, etc. Mais enfin, l'anxiété, c'est très partagé, donc on l'en considère comme normal. Et juste, on va leur demander si c'est anormalement anxieux. Eh bien, il y en a quand même 20% qui disent oui, souvent, et 25% rarement. Mais bon, le fait d'être anormalement anxieux a quand même été repéré. Et sur les troubles de l'humeur, donc, vous est-il arrivé d'éprouver une humeur anormalement instable ? Là aussi, c'était l'idée que peut-être c'est normal d'avoir des variations d'humeur. Et là aussi, c'est quand même très souvent pointé, puisque 30% des anciens rugbyman et 20% des anciens de pensionnaires de Krebs disent avoir éprouvé ça dans les mois suivants. C'est pas l'affaire de 15 jours, c'est dans les mois ou l'année suivant la sortie du secteur pro. Donc des choses qui s'installent suffisamment dans la durée pour qu'ensuite, lorsque les psychiatres confrontent ça avec leur manuel, disent bah oui, effectivement, ça correspond bien à un état dépressif majeur, ça correspond bien à ci, à ça. Parce que le verbatim des joueurs était assez éloquent. Toi, tu avais noté beaucoup de témoignages.
Oui, concernant avant d'évoquer les témoignages, concernant l'humeur et l'anxiété, on n'a pas voulu surcharger en chiffres et surcharger en tableaux, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très clairement et logiquement, statistiquement corrélé aux difficultés psychologiques et aux sentiments de vide. Ça l'est statistiquement et ça l'est aussi dans les verbatims et dans les témoignages, puisque un exemple, une ancienne pensionnaire du Krebs nous disait « J'étais souvent anxieuse et d'humeur instable parce que je ne savais plus quoi faire le week-end et parce que plus globalement, je me demandais ce que j'allais faire. » Donc, on sent déjà que tout ça s'inscrit aussi ou pourrait s'inscrire dans un tableau dépressif ou dans une forme de dépression post-carrière, ce qui est confirmé par aussi les autres difficultés évoquées. De manière libre et spontanée, où là très clairement on sent des choses de l'ordre du registre dépressif. Par exemple, dans les difficultés évoquées, il y a la difficulté à s'investir dans d'autres sports, mais pas seulement, la difficulté à s'investir dans toute autre forme d'activité. De manière spontanée, beaucoup évoquent une perte de dynamisme, une impression de fatigue générale, une absence de sensation. Ou encore des difficultés à se refaire des amis hors du monde du sport. Donc vraiment des difficultés évoquées de manière plus libre et qui, encore une fois, s'inscrivent dans le registre des difficultés psychologiques et éventuellement dans un tableau dépressif.
On a beaucoup parlé de difficultés. On a à peine commencé à évoquer ce matin ce qui pouvait éventuellement être des facteurs favorisants ou précipitants. Et ce qui avait été remarqué, et il y a un poster qui parle de ça, j'ai vu, c'est que les sorties sur blessure sont par définition non anticipées, enfin pas toujours anticipées. Il y a des sports dans lesquels on sait qu'on se blesse, donc il y a une espèce de forme d'habituation et d'anticipation. Chez les athlètes du Krebs, il y avait deux fois plus fréquemment des difficultés psychologiques quand ils étaient sortis sur blessure ou à la suite d'un accident. Dans l'étude Proval sur les anciens rugbymen, même lorsque la sortie est décidée, choisie, planifiée, parfaitement organisée, ça n'est pas suffisant pour protéger absolument. Il y a quand même 15%, 1 sur 6, qui a quand même des difficultés psychologiques dans les mois suivant la sortie. Et si la sortie est subie sur blessure, il apparaît très clairement qu'il y a quelque chose sur lequel on a peut-être une action possible, qui est l'anticipation. Parce que les sorties subies se distinguent très nettement entre celles vis-à-vis desquelles le joueur était préparé, s'était préparé par ses diplômes, sa pluriactivité, en particulier dans le rugby, où on est à 20% de difficultés psychologiques, pas beaucoup plus que quand on a parfaitement planifié sa sortie. Donc avoir pensé et préparé sa sortie, ça semble important. Là aussi, on a deux fois plus de risques lorsque la sortie est subie et n'a pas du tout été anticipée. Et sur ces rugbymen qui avaient interrompu leur carrière pro, certains sortent extrêmement jeunes, sans avoir anticipé la sortie, se retrouvent vraiment en difficulté. Une autre manière d'exprimer ça, c'était de regarder le pourcentage dont on a dit tout à l'heure, 70% ont plutôt bien vécu leur sortie. En fait, 70%, il ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il est parfaitement différent selon les situations. 90% de ceux qui ont bien planifié et complètement planifié et décidé leur sortie, 90% disent l'avoir bien vécu, si ce n'est, etc. etc. Ce pourcentage baisse lorsqu'ils ont subi leur sortie. Mais pour ceux qui arrêtent sur blessure, sans avoir anticipé leur sortie, on ne voit pas bien comment ça pourrait se passer bien pour eux. Là, il y en a 70% qui ont des problèmes et qui vivent mal, voire très mal, leur sortie. Donc là, il y a vraiment un gradient important et un lien très fort. Le fait, on va y revenir, le fait de se blesser, c'est quelque chose sur lequel on n'aura pas toujours d'action. Mais le fait d'anticiper sa sortie, de la préparer, là, il y a peut-être des choses à faire.
Pour sortir un peu des chiffres et essayer de parler aussi de toute la partie qualitative de ces deux études, très clairement, il est apparu, c'est vraiment une chose commune à ces deux populations, il est apparu qu'il y avait deux types de problématiques essentielles qui se jouaient au moment de cet arrêt de la carrière de haut niveau, et deux problématiques qui ont au fond un point de départ commun. Le point de départ commun, c'est que ça a été largement, je crois que ça a été évoqué ce matin, les sportifs de haut niveau, ils se présentent comme ça eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, sont des gens à part et qui vivent dans un monde à part. Et donc je commencerai par la deuxième partie, donc par ce qui concerne le monde à part. Ils le décrivent très massivement eux-mêmes, et encore une fois, que ce soit ceux du Krebs ou les anciens rugbymen pro, ils expliquent que du fait de leur différence de statut, de leur différence de conditions, simplement de mode de vie ou d'emploi du temps, ils sont dans une bulle, ils sont dans un monde à part, ils sont dans un monde séparé du monde des non-sportifs, pour lesquels ils ont souvent d'ailleurs des sobriquets. C'est assez marrant, les anciens anciens du Krebs s'appellent les autres les sédentaires. Les rugbymen, eux, ils parlent de la vie civile. Et ils expliquent que du fait de leur mode de vie, ils sont très rapidement et assez massivement coupés de ce qu'ils décrivent comme étant le monde réel. Et les termes les plus récurrents, le terme le plus récurrent est celui de la bulle. Les anciens pensionnaires de Krebs parlent systématiquement de la bulle sportive, d'un milieu très fermé et très spécial dans lequel s'opère quasi inévitablement un repli sur un groupe qui vit en autarcie, et ils expliquent assez largement que c'est un monde complètement différent, ou en tout cas que c'est complètement différent entre le dedans et le dehors. Chez les rugbymen, c'est pareil, ils parlent d'une bulle aussi, ils parlent d'un cocon, avec son langage, sa routine, un monde à part, au sein duquel, et c'est encore leur propos, les joueurs pros sont déconnectés du réel. Et précisément, c'est cette déconnexion qui est à l'origine d'un certain nombre de difficultés au moment de l'arrêt, et notamment de difficultés d'adaptation au fond. Parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qu'ils expliquent eux-mêmes, mettre un terme à sa carrière, c'est évidemment donc sortir de cette bulle, et ça signifie d'abord une perte de repères, et souvent de repères hyper sécurisants, notamment le groupe, parce que les sportifs intensifs vivent très souvent au sein d'une communauté, et quand ils arrêtent, ils se retrouvent seuls. En plus de ça, si cette bulle sportive coupe un peu d'une certaine forme de réalité, c'est ce qu'ils expliquent eux-mêmes, elle est aussi hyper protectrice, Et là, c'est encore plus fort chez les rugbyman pro qui évoquent très largement le confort, mais l'inconvénient de l'assistanat. Mais pour prendre un exemple, un de ces anciens rugbyman pro nous disait quand t'es pro, tu changes de monde, on fait tout pour toi, on te dit où il faut aller, à quelle heure, et c'est ça le plus dur. Quand on te dit ton contrat est terminé, tu dois te reprendre en main, c'est chaud, il faut faire ses courses, laver ses affaires, gérer son emploi du temps, il faut tout réapprendre, c'est infernal. Et beaucoup parleront d'une forme d'infantilisation, et donc là encore un monde très particulier, une bulle qui du fait de cet assistanat provoque des difficultés d'adaptation au moment de la sortie. Comment essayer de prévenir ces difficultés, ou en tout cas comment essayer de les amoindrir? Et là il nous semble qu'il y a quand même deux axes qui paraissent évidents. On l'a dit, ce phénomène d'enfermement dans une bulle et d'hermétisme de la bulle et de notre point de vue à l'origine de beaucoup de difficultés d'adaptation au moment de l'arrêt de la pratique. Et donc, évidemment, un des premiers axes de prévention, ce serait probablement d'essayer de diminuer cet hermétisme, de limiter la centration sportive et de permettre une plus grande expérimentation du monde réel pour dire les choses comme ça. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, les rugbyman pro le disent, ce qui les a souvent aidés, c'est qu'ils étaient, pour la plupart et pour cette génération, plus réactifs. Et ça les a quand même beaucoup aidés. Le deuxième axe, et vraiment je finirai là-dessus, Sylvie a commencé à l'évoquer, évidemment on voit qu'il y a deux facteurs qui changent complètement le goût, entre guillemets, de la fin de la carrière, c'est la cause de sortie. Là-dessus, il sera difficile d'agir, on ne va pas modifier ce qui met fin à une carrière, si ce n'est peut-être être plus attentif et vigilant à l'égard de ceux qui sortent notamment sur blessure. En revanche, il semble... d'autant plus du coup impératif d'essayer d'agir sur l'autre variable très clairement influente qui est cette notion d'anticipation et de préparation de l'arrêt. Et de ce point de vue, juste pour l'anecdote, justement l'étude Proval, et il a été prévu par les responsables de Proval d'éditer cette étude pour qu'elle soit envoyée à chacun des joueurs professionnels en activité. Et voilà, de notre point de vue, c'est un premier élément de sensibilisation et éventuellement de protection future.
Merci. Alors, éventuellement, une question, mais de fait, comme ça, juste pour un complément, parce que pas de question de fond. Hein. On s'en garde pour la fin.
C'est plus une remarque, enfin, ça peut être aussi une question. J'ai l'impression que la bulle est nécessaire à la performance. Donc, c'est soit la performance, soit la bulle. Enfin, soit pas de bulle. Et je pense que cette prévention-là risque d'être difficile à faire quand la performance est tellement valorisée.
Alors, je vais répondre très rapidement.
C'est pas factuel.
Il n'y a plus les petites diapos, mais si vous avez remarqué, on avait mis des points d'interrogation sur les deux axes de prévention. Parce qu'effectivement, et là je partage totalement votre point de vue, aujourd'hui, ces deux axes de prévention qui nous paraissent pourtant nécessaires vont probablement à l'encontre du fonctionnement de l'institution sportive aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a une idéologie très forte de la nécessité d'un investissement total. C'est-à-dire que pour être performant, il faut être à 100%, voire à 110%. Sauf que ça reste à prouver. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, personne, enfin, ou moi en tout cas, je ne connais pas d'études qui montrent qu'un investissement à 90% empêche d'être plus performant. Et j'aurais même quelque part tendance à penser que ça peut même mieux marcher si on a aussi d'autres points d'équilibre ailleurs. Sur l'anticipation, je suis d'accord avec vous aussi, parce que les sportifs le disent eux-mêmes, le monde du sport fonctionne sur l'immédiateté, et il y a aussi dans cette idéologie sportive quelque chose de très prégnant, qui est que, beaucoup m'ont dit ça, on dit, pour un entraîneur, quand si tu penses à l'après, c'est déjà fini. Donc effectivement, il y avait des points d'interrogation, effectivement, c'est loin d'être gagné, mais pourtant, c'est ce qui paraît nécessaire.
Voilà. Simplement un exemple, Polytechnique, il y a une gestion de bulle à la sortie et à l'entrée en Polytechnique. Simplement pour montrer que les problèmes ne sont pas seulement des problèmes de sportifs, mais sont des problèmes de gens qui effectivement courent après l'excellence et la performance. Je passe la parole à M. Lynch, on reprendra les questions après.
Bien, Pierre-Marie Lynchenot, je suis psychologue clinicien. Ancien sportif, je fais partie des gens qui sont entraînés pendant 10 ans, 2 fois par jour. et je suis encore dans le milieu sportif en tant que dirigeant. Par ailleurs, j'ai pendant plusieurs années, pas parce que je m'étais inscrit comme ça, mais par le biais des connaissances, j'étais amené à avoir une certaine file active de sportifs, soit en fin de carrière, soit en cours de carrière, soit en blessure. Voilà. Alors, ça, c'était la présentation de ma propre personne. Ensuite, je crains d'être un peu dans la redite par rapport à ce qui vient d'être dit. On le prendra comme on veut, c'est-à-dire ce sera soit une confirmation de mes observations, ce sera un peu soporifique pour vous. Je veux aussi faire une remarque. On va parler ici de psychopathologie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la retraite de tout le monde ou de la retraite de tous les sportifs, mais on va parler de psychopathologie des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire parmi les sportifs de haut niveau, ceux qui se trouvent en difficulté. On va essayer de... Il n'est pas question ici de dire que tous les sportifs de haut niveau sont en difficulté, mais votre étude nous donne des indications par rapport à ça. Alors, et comme un peu comme une introduction, un début de réponse à votre question, eh bien, j'avais intitulé cet exposé « Penser l'impensable ». Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose d'impensable de base dans l'idée de retraite par rapport au sport, au sport de haut niveau. Alors, petite définition de la retraite, c'est amusant de toujours commencer par ça, parce que quand on va chercher dans le petit Robert, eh bien, la retraite, ça veut dire littéralement l'action de se retirer, ça c'est... mais immédiatement précisé en arrière. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de régression dans la retraite, d'emblée, hein, dans une définition simple du Robert. Alors, bon, on pense à la retraite de Russie pour certains, hein, ce qui est l'exemple donné. Et les synonymes de retraite, abandon, recul, décrochage, repli, céder devant un adversaire. Hein, vous voyez déjà la connotation de cette idée-là. Se retirer de la vie active, évidemment. Mais aussitôt, le Robert, il parle de repos et de solitude. La notion de retraite est donc particulièrement opposée, finalement, à la notion de sport de haut niveau, qui est activité, qui est relation, qui est éclairage. Elle revêt fondamentalement l'idée de rupture, d'arrêt, de renoncement, et elle entraîne, selon les cas, les notions de perte, de fin d'un genre de vie, de fin d'une reconnaissance, de perte d'une capacité du corps à réaliser, à réussir, pour ne pas évidemment employer l'idée qui est convenue, l'idée de mort. En tout cas, pour le moins, la retraite revêt la notion de changement, de reconversion, c'est-à-dire l'accès à un monde différent, une place autre, une reconnaissance nouvelle. Bref, une altérité, pour ne pas parler d'altération, qui nécessite de relativiser un monde passé, passionné et total. Alors ça, c'était une brève remarque sur la retraite. Sur le sport de haut niveau, là, il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire que le sport de haut niveau est une activité particulière qui s'installe à un moment de l'évolution particulier du sujet, chez des sujets singuliers, dans un environnement spécifique. Alors une activité particulière, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu ce qui vient d'être dit. La pratique du sportif de haut niveau exige un engagement total, où on croit qu'elle exige un engagement total, et je vous rejoins complètement là-dessus, sans recul, monolithique, où tout converge en vue de la performance, l'emploi du temps, la préparation, la diététique, la formation. Et il est remarquable d'observer que les sportifs de haut niveau sont jamais en phase avec leur environnement immédiat, c'est-à-dire qu'ils ne sont en phase qu'avec l'environnement du sport. Alors, ce n'est pas propre au sport de haut niveau, c'est propre à tous les milieux, à toutes les bulles. J'ai eu à m'occuper de patients qui font les 5-8, pas les 3-8, les 5-8. Eh bien, les gens qui font les 5-8, ils vivent qu'entre eux. Ils vivent qu'entre eux, ils ne sont jamais à une fête de famille, ils ne sont jamais dans l'organisation sociale du temps, ils ne sont jamais dans aucune communion publique, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, pour répondre d'une certaine manière à la question « est-ce qu'il faut être à 100% mobilisé ?», il y a tout un ensemble de travaux, hein, des vieux travaux de May, Coddington, Crian ou Nitfer, qui montrent que plus un sportif est confronté à des événements de vie, plus il risque de se blesser. Hein, c'est-à-dire que toute pensée qui vient altérer l'unité de de sa concentration sur le sport est un facteur de blessure. Hein, les observations sont faites en disant bien, on prend les gens blessés et on regarde leur investissement. À quoi ils pensaient? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait aussi qu'il y a un autre facteur de blessure, c'est quand on se met à penser à son geste. Mais ça, c'est d'autres choses dont il s'agit. Enfin, le sport de haut niveau suppose une activité d'exception par rapport aux non-sportifs. Tout doit être exceptionnel, voire expérimental. Hein, il faut bien penser que le sportif... C'est intéressant, la dynamique du sport elle-même. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau doit trouver des choses que les autres n'ont pas. Hein. Donc, il faut bien penser que le sport de haute compétition est consubstantiel du dopage, consubstantiel de la recherche de gourous. Ce matin, on parlait de secte. Eh bien, on trouve l'entraîneur qui a quelque chose que les autres n'ont pas, ou une situation que les autres n'ont pas. Et donc, il est nécessaire de réfléchir à ça et aussi de pouvoir penser qu'il est normal pour le sportif de haut niveau de faire des expérimentations que les autres ne font pas. Ensuite, je dis que c'est un moment particulier de l'évolution de la personne. Alors, Madame Serrata, ce matin, a largement développé ça. Le sport de haut niveau s'installe principalement au moment de l'adolescence. C'est une période où, pour se sentir homme, parmi les hommes, le sujet vient s'affirmer, se différencier, s'opposer, marquer ses propres valeurs, se démarquer. Ce, dans un temps suspendu, total, où la mort est niée. Alors, ça, ce n'est pas le propre des sportifs de haut niveau, c'est le propre de l'adolescence. Hein. On voit les performances des gens qui traversent les autoroutes à 6h du soir le dimanche, en marchant, ceux qui prennent des risques insensés en mobylette. Il y a le drame de Corse, là, qu'on a entendu à la radio ce matin, c'est de jeunes filles qui se suicident, et vraisemblablement que la mort dans leur représentation n'est pas celle que nous pouvons avoir en tant qu'adulte, et en tout cas, elle ne se positionne pas dans une durée. On sait bien que vous pouvez aller dire aux sportifs de haut niveau qu'il ne faut pas se doper parce que dans 30 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, ils auront un cancer. Il y a quelques risques qu'ils ne soient pas du tout disponibles à l'entendre, parce que ce qui urge, c'est la réalisation et la performance à mener. Il est donc singulier d'observer que le sport de haut niveau est une espèce de paradigme social de l'adolescence, qui est à la fois passion de l'investissement total, absence de relativisation, éternel recommencement, saison après saison, hop, on arrête, on recommence, où la scansion temporelle semble suspendue. Moi, je suis toujours frappé quand, dans le sport, on essaie d'introduire la justice. Hein ? Il y a telle équipe qui m'a volé mon titre parce qu'elle faisait jouer un joueur qui ne voulait pas, etc. Eh bien, les mesures de justice, elles interviennent un an, deux ans après la fin du championnat, ce qui ne veut rien dire. Donc il y a besoin d'une réactivité de la justice par rapport au sport, et qu'on voit bien que le sport lui-même, le sport de haut niveau lui-même, est dans une autre temporalité que la temporalité chronologique, sociale, classique. Il est remarquable de noter, d'ailleurs, les travaux de Claire Carrier, qui parle du sportif adolescent comme étant un état limite expérimental. L'adolescence, alors est-ce qu'il est malade? Est-ce que l'adolescent sportif de haut niveau est malade? Est-ce qu'il n'est pas malade? Alors, elle dit c'est un état limite. Alors, pour ceux qui connaissent la psychopathologie, ben, l'état limite, c'est un état non stabilisé, non définitif. Et on va dire que le sportif de haut niveau adolescent n'est pas malade, mais il n'est pas stabilisé. Il fait toutes les expériences de la vie d'un adolescent, mais dans un contexte différent et un contexte singulier dans lequel il y a une représentation de la singularité. Alors, troisième point, je disais que les sportifs de haut niveau ont une personnalité particulière. Alors là, toutes les études semblent montrer... Alors, vous savez qu'il y a des tas d'études qui ont été faites pour essayer de dire est-ce que l'ouvreur au rugby a une personnalité particulière par rapport aux premières lignes ou par rapport aux arrières? Est-ce que le golfeur a une personnalité particulière par rapport à d'autres sports? On n'arrive pas à faire ces distinctions. Pourquoi? Parce que tout le monde fait du sport et forcément, on retrouve parmi les sportifs les spectres de la population et des personnalités de la population. Mais il y a quand même quelques sportifs chez lesquels on repère des spécificités. Par exemple, Les pilotes de Formule 1 sont souvent beaucoup plus performants dans la réactivité, beaucoup plus performants dans l'analyse des situations, etc. Bon, c'est un peu bateau. La seule chose sur laquelle à peu près les psychologues du sport sont d'accord, c'est l'idée qu'il y a un profil du sportif de haut niveau. Alors vous avez tous entendu parler peut-être de l'iceberg profil de Morgan, c'est-à-dire où il y a aussi un psychologue footballeur suisse, Bizzini, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui définit cela bien. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau, il a comme particularité qu'il est perdu, que ses copains ne soient pas à l'entraînement ou autre, lui, il y est. Il est d'une persévérance extraordinaire. Lui, il est, on va dire, moins névrosé, c'est-à-dire moins sensible à l'environnement, aux remises en cause que pourrait lui apporter l'environnement. Lui, il est plus endurant à la souffrance et toutes ces choses-là. Donc, il existerait non pas une personnalité poste par poste, mais il existerait le sport de haut niveau n'interpellerait que ceux qui peuvent aller vers le sport de haut niveau. Avec donc, l'absence d'influence de l'échec, la capacité à s'entraîner seul, quoi qu'il arrive, autant d'éléments qui laissent place à une position particulière vis-à-vis du monde courant, ce que vous disiez tout à l'heure de cette bulle, une perception singulière d'une vie hors norme courante, c'est-à-dire que lui, il trouve normal d'être dans une vie hors norme. Et comment donc, dans cet espace-là, la retraite peut-elle être envisageable ? Enfin, un environnement particulier. Alors, cet environnement particulier, là aussi, il a été bien décrit ce matin. Tout est organisé dans le meilleur des cas pour le sportif. Hein, je me souviens de la mise en place à l'INSEP. Moi, je suis d'origine nageur et joueur de water polo. Et donc, quand l'INSEP a commencé à mettre accueillir des adolescents à l'entraînement, il y avait des barrières psychologiques à passer. C'était à l'époque de Delcourt, je ne sais pas si vous avez connu, médaille de bronze à Los Angeles. Alors on faisait 40 km par jour, tout d'un coup. Là, c'était la barrière psychologique à passer. Bon, il ne faisait pas tous les jours 40 km. Mais il y a eu des. Et puis, mais en contrepartie, on rentrait à l'INSEP, et puis on ressortait de l'INSEP, et bien on ne connaissait pas la vie. C'est-à-dire cette espèce cette expérience est terminée, les choses ont beaucoup évolué depuis, mais il y avait une espèce de protection totale du sportif pour qu'il soit que son sport. Donc l'entourage du sportif de haut niveau, on va dire, comme ça a été dit ce matin, qui vit le sport par procuration, parents, dirigeants, entraîneurs, sponsors, il dénie la réalité quotidienne autre que la réalité sportive. Il y a des réalités. Enfin, on connaît le sport. On ne parle pas que du sport professionnel là. On parle de l'investissement sportif de haut niveau. Il est remarquable d'observer que certains sportifs dans des sports moins connus peuvent investir professionnellement, c'est-à-dire en temps de vie totalement un sport, sans avoir ni les retombées médiatiques ni les retombées financières. Donc un investissement passionnel avec tous les enjeux de la passion, mais on va pas en parler aujourd'hui. Et on sait bien des exemples où des dirigeants peuvent employer des sportifs. Et on ne parle pas que de sports méconnus. On peut parler de handball, on peut parler de hockey sur glace, on peut parler de sports comme ça dans les sports collectifs où les gens ont un investissement total et ont soit une bourse olympique, soit une bourse de tel ou tel conseil régional, plus ils ont le RMI ou des choses comme ça, c'est-à-dire un investissement total sans retour, c'est-à-dire où la réalité est inversée, c'est-à-dire que la réalité sociale est remplacée par une réalité sportive. Moi, j'ai fait partie, je joue au water polo, et donc je voyais des joueurs qui étaient... S'il y a une quinzaine d'années, donc le water polo n'était pas professionnel comme il l'est maintenant. Et oui, le water polo est professionnel. Il y avait des joueurs qui étaient les ténors de l'équipe de France. Et ils avaient, c'était les meilleurs joueurs reconnus dans l'Europe et le monde entier. Et puis ils avaient une vacation de ménageur, comme autrefois au rugby. Les gens, ils étaient employés à la ville pour les espaces verts. Il y avait ce décalage extraordinaire où à la fois ils étaient toute leur vie le rugby. Et la vraie vie, si je peux dire ça comme ça, si j'ai la prétention de dire ça comme ça, c'était les espaces verts. Et puis quand ils finissaient, il y a des exemples célèbres, à Bordeaux, Rabah Khaloufi, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce boxeur extraordinaire, eh bien, qui était gardien municipal d'un stade. Voilà. Et toute cette gloire. Donc, des réalités inversées. Le sport de haut niveau intervient donc au travers d'individus ou d'équipes comme la réalisation de fantasmes collectifs. C'est-à-dire que l'environnement réussit des choses au travers de l'action sportive d'autres. Et on assiste, du coup, à une déresponsabilisation collective, sociale et politique du sportif. Est-ce que vous n'êtes pas frappé que le sportif dopé, lui, ne risque rien? Ce sont les autres. Le médecin qui a pourvoyé, qui a indiqué, le soigneur qui lui a fait avoir le produit, la connexion tout autour. Mais lui, il suffit surtout qu'il avoue et il risque au pire la suspension. Donc, le sportif est déresponsabilisé de ce qui peut lui arriver. Et ça conduit parfois aussi à son isolement et à son exclusion. Hein ? C'est-à-dire que le milieu sportif peut être extrêmement tolérant par rapport aux frasques du sportif de haut niveau. Il y a des exemples célèbres dans la littérature où on voit un basketteur américain schizophrène, malade, qui sortait du terrain, qui allait dans sa chambre et puis qui revenait et qui était très en danger parce que tout le monde lui en voulait. Il était en danger, mais on mettait ça sur le compte de son originalité, tout ça jusqu'au jour où il s'est mis à délirer. Il y a un très bel exemple dans un vieux film, The Wall, hein, où le chanteur doit aller sur scène, et lui, il est complètement pris par ses toxiques, il est complètement ailleurs. Et on accepte complètement son exclusion du monde à condition qu'il vienne sur scène, c'est-à-dire on met tout ça sur le plan de son originalité. Donc un milieu, un environnement qui va favoriser, qui va encourager cette exclusion. Donc, envisager la retraite réellement par le sportif de haut niveau revient à penser le sport dans un temps fini, et donc qui relativise l'investissement total de la pratique sportive en général. Le sportif, de ce fait, n'envisage pas la retraite, ou très rarement, pas plus que le commun des mortels, n'envisage réellement la mort. Alors, quel risque court le sportif d'être dans un monde réel? Rapidement, ne vous inquiétez pas. L'irruption de la réalité, l'expérience de la perte d'un idéal et d'un moi idéal, l'expérience de la mort d'une image de soi et la relativisation d'un investissement démesuré. Voilà ce qu'il risque. C'est-à-dire que tout d'un coup, sortant du sport, il court le risque de relativiser, d'être confronté à la fatuité de son investissement. Il y a un exemple que tout le monde connaît, qui va faire rire tout le monde, c'est celui de Laure Manaudou. Hein ? Vous voyez que tout d'un coup, quand elle découvre qu'il y a un autre monde, alors je le dis à ma manière, on pourrait l'articuler différemment, le monde où il y a de l'argent, le monde où il y a de l'amour, c'est frappant qu'elle met Love sur sa main, elle s'en va, c'est-à-dire qu'elle court le... Et qu'est-ce qu'il dit, Philippe Lucas ? Eh bien, il dit, elle ne pourra plus rien, parce qu'elle me perd, c'est-à-dire qu'elle perd ma protection, elle découvre le monde et elle va perdre l'investissement total. Et elle dit, ne vous inquiétez pas, je continuerai de m'entraîner. C'est-à-dire de sauvegarder cette bulle. Alors, le risque de la retraite, c'est que le sportif se retrouve confronté à ses manques, le sport fonctionnant comme un masque adapté, cachant ses difficultés. C'est-à-dire que le sportif court le risque de fonctionner, de continuer de fonctionner de la même manière, mais sans objet. C'est-à-dire que toutes ces modalités d'investissement ne correspondent plus à rien. Alors, simplement, comment répondre à ça? Eh bien, c'est la quadrature du cercle. Je passe d'autres exemples. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la blessure était une première retraite ou une forme d'irruption de la réalité. Certains psychologues ont essayé de travailler sur l'idée de préparer à la retraite. Alors, ce sont des vieux psychologues, hein, c'est des Américains, Ogilvie et Tutko, qui ont essayé d'instiller, dès la formation du sportif, la diversité, c'est-à-dire l'ouverture au monde, hein, pour permettre l'avenir du sportif du haut niveau, le protéger de la brisure de la retraite et une vie peut-être fini en quête de sensations perdues, permettre aux sportifs de, dès sa formation, avoir des alternatives à son sport. Il s'agit de le faire accéder à la diversité, à la relativisation, à la temporalité. Courir le risque de dépouiller le sport de sa totalité, courir le risque que les sportifs se mettent à penser leurs investissements et courir le risque qu'ils s'aperçoivent de ce que le sport est comme perte d'une autre vie. Hein ? D'ailleurs, la formation fait partie de ces exemples-là. Eh bien, le risque, c'est que le sportif abandonne. L'enjeu, c'est de le responsabiliser. C'est de rendre c'est que le sportif opère un vrai choix d'adulte. Et que ce choix d'adulte, on en voit des sportifs qui, M. Dacoury sûrement, qui réussissent ce choix d'adulte, c'est-à-dire de relativiser leur activité sportive, de l'investir simplement pour ce qu'elle est. Mais c'est aussi courir le risque de perdre un monde imaginaire et de perdre un environnement imaginaire. Voilà. Bon, on va arrêter là.
Merci. Donc, je propose de passer tout de suite la parole à Charles Dacoury qui pourrait peut-être... Là, il y a une interpellation, là, une perche. Donc, pof, tu vous la saisissez.
Bonjour à tous, d'abord. Je suis ravi d'apprendre que la manière dont on me perçoit, c'est comme quelqu'un ou un sportif qui a réussi, apparemment. Pour autant, vous allez être surpris peut-être d'entendre que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Même pour moi, ou surtout pour moi, j'en sais rien. Peut-être faut-il tout d'abord que je vous parle de ma vie, mon œuvre, pour mieux percevoir ou mieux comprendre un petit peu. J'ai entendu beaucoup de choses sur les sportifs, hein, des choses qui me rapprochent ou qui me font croire que je fais partie de cette catégorie-là, et d'autres choses qui me font croire que j'en fais pas du tout partie. Une forme de grand écart comme ça qui doit a priori caractériser aussi le sportif, en tout cas dans son humanité. J'ai passé 25 ans de ma vie ou 30 ans de ma vie, je ne sais plus, c'était tellement bon que je n'ai pas compté, à faire du sport, apparemment du haut niveau, très haut niveau. Et pour autant, je n'ai jamais eu la sensation, j'ai eu cette chance-là, peut-être que je faisais aussi partie d'une autre époque, hein, mais l'investissement était toujours aussi intense. J'ai jamais eu l'impression véritablement de faire un métier ou de faire un sacrifice ou de souffrir à l'idée de pratiquer ce sport, même au plus haut niveau. Donc, ce qui m'a le plus drivé dans tout ça, c'est la passion. J'ai eu cette chance de rencontrer le basket, en l'occurrence. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un petit peu de basket dans ma vie. J'ai eu le plaisir de rencontrer quelqu'un qui m'a aimé quand j'étais au haut niveau. J'en ai perdu le fil, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, oui, la passion. J'étais un petit peu triste. J'ai pas assisté aux différentes interventions de ce matin, mais j'étais un petit peu triste de ne pas entendre beaucoup plus le mot passion peut-être que vous l'avez dit d'ailleurs dans les interventions. Moi, c'est ce qui m'a véritablement toujours conduit et fait avancer et vouloir plus pour quelque part peut-être me brûler au contact de cette passion. Mais c'était tellement bon que ça ne posait aucun problème. Donc j'ai passé plus de 30 ans à courir sur les terrains malgré tout, avant très rapidement de comprendre que le sport de haut niveau était un exercice assez dangereux et qui pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Comment j'ai fait pour comprendre ça? C'est que j'ai eu la chance, je crois que c'est aussi important d'être bien entouré ou d'avoir à mes côtés quelqu'un qui m'a toujours permis de garder un pied avec la réalité justement. Réalité dont on est très rapidement coupé par un encadrement, un environnement qui vous met dans cette bulle que moi, grâce à cette personne ou à ces personnes, mais j'ai essayé de percer régulièrement pour rester au contact, pour rester un petit peu entier quelque part. Et je crois que ça a été une chance pour moi, ce qui fait que j'ai toujours eu cette dualité. J'étais à la fois basketteur ou sportif de haut niveau et à la fois quelqu'un de normal, en tout cas j'essaie de le rester et de l'être le plus naturellement possible. Des exemples tout à fait simples, hein. Je remplissais mes feuilles d'impôts, j'allais faire des courses, j'étais en contact permanent toujours avec le quotidien de tout un chacun, quoi. Je crois que c'est important, parce que sportif de haut niveau, à très très haut niveau, le problème c'est ça, c'est que notamment dans le milieu pro, avec l'argent et tout ce que ça implique, eh bien, il est totalement assisté, pris en main. On lui fait tout, on lui mâche tout. Concentre-toi à faire ce que tu fais bien a priori, essaie de le faire le mieux possible encore. Et puis basta, et le reste, ce n'est pas ton problème. Et ça, moi, j'ai toujours lutté contre ça. Et ça a peut-être été ma chance, je crois, avec le recul. Donc aussi, j'ai eu aussi cette sensation que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc j'ai rapidement essayé de me blinder par rapport à cette éventualité que j'avais très très clairement en conscience. Et c'est peut-être l'avenue de ma première fille, parce que je me suis marié assez tôt, l'avenue de ma première fille qui m'a fait justement prendre conscience de ça, que voilà, ça pouvait s'arrêter du lendemain, donc j'avais une forme de responsabilité vis-à-vis d'elle en tout cas. Et donc j'ai fait des études, j'ai été kiné, j'ai passé mon diplôme, ça a été assez dur parce que j'avais ce sport qui était facile, qui me donnait accès à tout. Et à côté de ça, je devais aller plancher sur les bancs de la fac ou de l'école de kiné, c'était pas toujours simple, avec un statut qui était un peu particulier. Bon, voilà, j'étais un petit peu chahuté dans mes limites et dans mes manques et dans mes lacunes, donc je devais, en plus par rapport à mon statut, assurer quand même, parce que les gens ont une image de vous qui est assez particulière, ils vous mettent là-haut, et alors que vous avez peut-être caché au plus profond de vous-même une certaine faiblesse, ou une certaine... donc c'est pas toujours simple à gérer. Et donc j'ai passé mon diplôme et puis après j'ai continué à jouer au basket du mieux possible et à me laisser totalement porter, parce que c'est facile, c'est un vrai piège hein, ce sport pro, vous laisser porter par cette vague là qui est tellement, tellement confortable. Mais très rapidement, je veux dire, j'ai eu des manques, ma vie était un petit peu creuse. Le sport, c'est très bien, mais c'est vraiment très bien que lorsque on est sur le terrain réellement, quoi. Lorsqu'on est dans le plaisir, certes, mais aussi dans la souffrance, dans la douleur, parce qu'il y a toujours ce rapport moi, que j'avais par rapport au sport. C'était pour me sentir bien sur un terrain et me dire, voilà, je vais donner mes moyens, je devais a priori souffrir. Et ça, c'était assez particulier. Mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, je commence seulement maintenant à me remettre un petit peu de ce mode de fonctionnement très, très particulier du sportif de niveau par rapport à la souffrance. Parce que moi, je n'ai jamais considéré le sport, sauf depuis un an voire deux ans, comme autre chose que... Enfin, quelque chose qui est forcément lié à la douleur et à cette souffrance. Alors que maintenant, je commence enfin à comprendre qu'on peut faire du sport sans avoir besoin d'avoir ce rapport-là. Bref, revenant quelques années en arrière, et pour vous dire que voilà, il manquait quelque chose malgré tout, hein, une dimension peut-être intellectuelle, hein, toute proportion gardée. J'avais besoin d'enrichir un peu tout ce que je faisais, l'univers du sport. Cette bulle commençait un petit peu à me peser, à me m'étouffer quelque part, et j'avais besoin de m'échapper régulièrement pour sortir de cet univers du basket avec les mêmes gens, les mêmes joueurs, les mêmes personnes qu'on rencontrait en permanence et qui limitait un peu mon horizon, que je voulais beaucoup plus lointain. Et j'ai eu une première période où, à 30 ans, j'ai eu envie de m'arrêter, de prendre ma retraite une première fois. J'en pouvais plus, tout simplement. J'avais plus envie, je n'apprenais plus rien sur le terrain, d'un point de vue purement sportif. Jusqu'au jour où j'ai, à nouveau, à 32 ans, j'ai tenu le coup quand même, à 32 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une autre personne qui a été assez inspiratrice pour moi, en tout cas dans le basket. C'était quelqu'un qui m'a laissé entrevoir d'autres horizons dans le sport et qui m'a dit, voilà, tu peux encore progresser, c'était vachement, vachement important. Donc j'ai poursuivi ma carrière avec bonheur à nouveau, j'ai eu ce deuxième élan. Entre-temps, j'ai eu encore beaucoup, beaucoup d'enfants, hein, Serge, je suis sûr que c'est quelque chose. Ce qui m'a donné encore beaucoup plus de raisons de réussir, mais peu importe. Et j'ai poursuivi ma carrière jusqu'à 39 ans, avant de m'arrêter. C'est pour ça que ma carrière est un raccourci de beaucoup d'exemples que vous avez mis en avant ou de carrière d'autres sportifs avant de m'arrêter sur blessure. Alors que je pensais avoir planifié beaucoup, beaucoup de choses, planifié entre guillemets, en tout cas j'avais des diplômes, j'avais ci, j'avais ça, j'avais un réseau, j'avais un petit peu réfléchi un petit peu à la suite. Il est important quand même de réfléchir à la suite. Je ne pense pas que ce soit véritablement une bonne chose d'appliquer ce que les coachs ou les autres grands penseurs du sport vous imposent, à savoir qu'il faut faire ci, il faut faire ça, je sais si, alors qu'ils n'ont jamais rien vécu réellement, si ce n'est dans les bouquins et autres. Je pense que la réalité est tout autre. Donc, je me suis arrêté sur blessure et ça a été malgré tout une souffrance. même si, je ne sais pas s'il y a un lien étroit avec ça, c'est que j'étais fatigué psychologiquement à 39 ans, mentalement j'en pouvais plus. D'en parler, ça m'émeut d'ailleurs, c'est vrai. Zut. Et deux secondes. Et le plus dur pour moi, ça a été de... Je ne pensais pas que ça m'arriverait là.
Je voudrais juste prendre la parole deux secondes.
Merci Serge.
Je t'en prie.
Fais-moi un petit peu rien, un petit peu, ça me ferait du bien.
Non, mais pour dire que moi, quand j'ai arrêté ma carrière à 30, on s'est rencontrés dans un groupe de parole d'anciens sportifs anonymes. C'était difficile de ne pas le reconnaître d'ailleurs. Parce que... mais j'ai arrêté moi pour ce phénomène de bulle. En fait, je m'en rends compte a posteriori, même si j'ai évidemment beaucoup réfléchi sur la chose, j'en ai fait même un peu mon métier. Mais aujourd'hui, clairement, en vous écoutant, c'est vrai que ce qui a arrêté ma carrière, j'ai arrêté... J'étais un bébé, j'avais 31 ans. Tu vois,
pour toi, je recommençais, moi.
J'apprenais à peine à courir. Alors que justement, le rugby devenait professionnel de manière extrêmement intensive. C'est on est en 98. Pour ceux qui connaissent l'actualité du rugby, début de professionnalisme 95. Et dans les faits, sur les terrains, c'est 97-98. Avec, on passe de 3 entraînements et 2 cuites par semaine à 6 entraînements et 2 cuites par semaine. Ça n'a rien changé. Mais ça devient plus difficile parce qu'on a mal à la tête le lendemain. Et moi, j'ai arrêté à 31 ans, ce qui pour un pilier est assez jeune, parce que la bulle s'est refermée. Parce qu'à un moment donné, je me souviens très bien, je m'entraîne au Stade français, Bernard Laporte, entraîneur, nous fait passer de ces 3 entraînements par semaine qui nous allaient très très bien, avec donc du temps, avec une temporalité qui nous fait vivre un quotidien, c'est vrai bien sûr décalé, mais quand même, on est inséré dans quelque chose, on a du temps pour le reste, l'entraînement c'est le soir, c'est 18h30, 19h, donc il y a la journée qui se passe. Et là on passe à un entraînement à 10h du matin et un entraînement à 15h. Et là, la bulle se referme. Là, plus de possibilité de vivre comme les autres. Ça devient effectivement complètement, on devient captif d'un système qui nous coupe du reste. Moi je viens d'une génération, je suis d'une génération qui avait construit sa vie de manière différente, des trucs, des machins, des trucs, des projets complètement cons, mais enfin des projets quand même. Et bien là, d'un coup, ça vous coupe de tout ça. Et je crois que la fatigue psychologique que j'ai ressentie à ce moment-là, l'impossibilité de faire, alors que l'argent arrivait, justement, j'aurais pu continuer, les salaires devenaient très intéressants à cette époque-là, j'aurais pu profiter 4-5 ans, Peter de Villiers à 35 ans, j'aurais pu profiter de 4-5 ans, 4 très belles années, et j'allais dire, faire fructifier mes 20 années de pratique, sans le penser, et un peu avec regret aujourd'hui, j'aurais peut-être dû y penser un peu plus. Sans le penser, ce qui m'a fait fuir le rugby professionnel, parce que vraiment je l'ai fui, c'est la fermeture de cette bulle que j'ai vécu en direct, avec une impossibilité comme toi, un peu morphotypique, d'obéir à ça. Quoi. Voilà, me couper du reste du monde était impossible.
Merci Serge, j'ai récupéré. Serge Simon, mesdames et messieurs. Donc voilà, donc, je vous le disais donc, je me suis arrêté sur blessure. Bon, apparemment c'est plus douloureux que je le pensais, mais maintenant qu'on en parle, vous l'avez vu, je suis désolé de ce petit moment de faiblesse. Et le plus dur, c'était de se rendre compte qu'on avait, en fin de compte, j'avais absolument rien préparé. Quoi. J'étais absolument pas préparé psychologiquement à ça, et je me suis retrouvé vraiment très très seul. Immédiatement, d'ailleurs, après ma rupture, qui s'est passée dans l'anonymat le plus complet, je me rappellerai toujours. C'était à l'échauffement d'un match de Coupe d'Europe. Les gars m'ont vu boiter et sortir en se disant voilà, il a un petit quelque chose, c'est rien de très grave. Et puis je suis allé au vestiaire, j'étais seul, le match commençait forcément, donc les kinés, tout le monde était totalement tendu vers ce qui importait, à savoir le résultat et le match. Et moi je savais que ce jour-là, à cette minute-là, je savais que ma carrière était terminée, donc c'était un petit peu dur à vivre, mais j'ai survécu, je vous rassure. Et après il fallait se soigner, décider véritablement que c'était terminé et puis rebondir. Alors bien évidemment, tout le monde me disait, mais pour toi Richard, ça va être facile, tu es ci, tu es ça, patati patata, tu as des études, tu es intelligent, tu as une faculté d'adaptation, tu as pas mal de choses. Tout le monde me peinturerait de plein de qualités, et, alors que moi je me sentais très très démuni face à ce que j'allais découvrir en fait, parce que j'étais absolument pas préparé. Même si on a malgré tout en tant que sportif... Je ne sais pas si c'est sportif ou moi, je donne toujours donner aux sportifs autant de qualité, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais j'avais quelque part une grosse confiance en moi. Je me disais, bon, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas, d'autant réussi, et la vie n'est pas si dure que ça, en fait. Elle est un peu plus dure que ce que je croyais, et j'ai mis, et je me suis retrouvé vidé malgré tout. J'étais très fatigué, donc mentalement, la pression, bon, 25 ans de haut niveau, avec la pression que je me mettais moi-même et celle que les autres mettaient sur le dos, a fait que je suis arrivé quelque part. Mais avec le recul, je me dis peut-être que cette blessure est arrivée parce que j'en pouvais plus et que c'était mon corps qui disait basta, arrête là, ça suffit, t'en peux plus, tu voilà. Et donc je suis arrivé un petit peu vidé, même carrément vidé, une enveloppe vide à près de 40 ans et avec une autre pression qui m'est tombée sur le dos, que j'avais déjà un petit peu mais que je gérais, c'est celle de devoir d'être chef de famille et devoir gérer tout ça. L'argent arrivé. Pas autant que dans le rugby, bien sûr, parce que le rugby, vous savez, c'est un sport très friqué. Et en revanche, je n'avais pas préparé, ou pas suffisamment préparé, ou pas pu préparer, comme d'autres sports, footeux ou autres, la suite, en me reposant sur le pécule que j'avais accumulé pendant plus d'un temps de carrière. On se retrouve là, et puis plus rien, un petit coussin comme ça pour voir venir pendant un an. Et puis après, il faut se remettre au boulot et puis assumer ses responsabilités. Donc, voilà, cette pression est arrivée et j'étais vidé, j'en pouvais plus, j'avançais plus, j'étais voilà. Et j'ai mis, je crois, j'en sors à peine en fait. Ça fait 6-7 ans que apparemment, avec le recul, j'ai dû subir une forme de une petite déprime, grosse déprime, c'est selon, avec des hauts et des bas, avec toujours ce besoin de, cette énergie de me battre malgré tout, et de dire de refuser un petit peu cette réalité-là, que ma femme a assumé avec beaucoup de... C'était très, très important, ça. Que ma femme a assumé avec beaucoup de courage et de patience, en attendant de me voir... en espérant de me voir remonter. Et puis, j'ai remonté. Je suis en train de sortir du trou. Et ce qui est étonnant, c'est que la perception et l'image, en tout cas, que je donnais de moi à l'extérieur, est totalement différente. Il fallait que j'assume un peu le statut qui était le mien, l'image qui était celle d'un sportif justement conquérant, à qui rien ne pouvait arriver, qui réussissait tout, et patati. Alors c'est totalement faux. Et donc je donnais le change. J'ai eu la chance quand même d'avoir beaucoup de sollicitations, de rebondir sur pas mal de métiers qui m'ont construit, mine de rien, même s'ils ne me plaisaient absolument pas et que je retire absolument aucun plaisir. Vraiment. Il y a toujours cette comparaison systématique qui se faisait en moi entre ce que j'ai pu vivre dans le sport avec cette passion, cette énergie et cette intensité là qui était extraordinaire et la platitude de la suite, quoi. C'était vide de sens. Enfin oui, vide de sens, c'est le cas de dire. Et c'était et je m'emmerdais, quoi. J'avais rien, j'avais absolument aucun objectif. Moi, j'ai toujours été conduit dans toute ma carrière par des objectifs assez haut, avec ce besoin de réussir, de se donner des challenges permanents, en permanence, d'être le meilleur, d'être en équipe de France, de réussir en équipe de France, de décrocher des titres, d'avoir des titres personnels, des titres collectifs, tout ça. Ça me faisait avancer, ça c'était important. Et puis après, je me suis retrouvé derrière avec rien pendant un petit moment, 5 ans, 6 ans, je vous le disais, avant de me dire, en fin de compte, écoute Richard, peut-être que tout simplement ton objectif va être de réussir ton après-carrière. J'aime pas du tout ce mot de fin de carrière, parce que j'ai l'impression que ce que je suis aujourd'hui, je le dois à tout ce que j'ai eu pendant ma carrière. Donc je me suis construit au travers de ça. Donc c'est ma vie, c'est pas une carrière. Faut pas réduire l'activité de sportif à une durée déterminée. Je crois qu'il faut se dire que c'est sa vie. Qui j'ai la prétention de croire continuer après le sport, mais c'est la continuité de cette construction que l'on développe, et ça c'est très important. Donc dans les mots fin de carrière, j'aime pas du tout, c'est la suite. Bon voilà, certes il y a eu un petit accroc comme ça, il fallait assumer et puis comprendre la suite. J'ai mis du temps à comprendre que c'était la suite de ma vie, que tout ce que j'ai vécu en tant que sportif, c'était très important pour réussir ce que je suis aujourd'hui. Ce que je vais devenir d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, tout reste à construire encore, et que je dois absolument ne pas me dire que, d'abord, avoir ce sentiment d'un peu d'infériorité par rapport aux gens que j'ai en face de moi, qui sont archi-diplômés, parce que je suis maintenant dans un univers qui est marketing sportif, qui est un univers entrepreneurial avec des gens bardés de diplômes qu'on regarde avec un petit peu d'admiration parce qu'ils ont une réponse à tout, en tout cas sur un domaine bien précis qui est le leur. Hein. En fin de compte, on se rend compte qu'ils ont aussi autant de faiblesses que nous, pour peu qu'on les sorte de cet univers. Donc moi, mon challenge maintenant, ça a été d'amadouer un peu cet univers, de rentrer dans cet univers et de réussir dans cet univers. Donc je me suis attelé à... J'ai encore un petit peu de temps, hein, monsieur Time, hein, de m'atteler. Je le réveille parce qu'apparemment, je suis endormi. Ça a été de dompter un petit peu cet univers. Donc, je me suis remis sur les bancs de l'école à plus de 40 ans. J'ai passé un master à l'ESSEC. J'ai essayé d'acquérir justement ces outils qui vont me permettre de gérer et de réussir dans la suite, quoi, dans ce qui est la vie que j'ai choisie aujourd'hui. Donc voilà, je m'outille et puis j'ai repris confiance et au travers de différents succès, ben je me dis qu'il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Et voilà, j'avance. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça, mais que ce n'est pas aussi triste que ça non plus. Je veux dire, bon, il y a des exemples très tristes, hein, je suis arrivé juste à la fin, ça. C'est très troublant, mais après, il faut... Il faut avoir certaines ressources. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, je ne veux surtout pas critiquer ceux qui n'arrivent pas à réagir, ceux qui n'arrivent pas à rebondir. Moi, je me suis laissé très clairement couler pendant 5-6 ans. Et avant de toucher le fond. Et puis après, j'ai donné un coup et je suis remonté. Quoi. Encore faut-il être capable de remonter. Quoi. Donc, je ne vais pas te faire de mon exemple. Hein, justement, un exemple. En tout cas, on a bien un exemple. Mais, c'est formidable ce qui se passe autour du sportif maintenant et c'est très important qu'il soit plus entouré, qu'il soit accompagné parce que tout le monde n'a pas peut-être ces facultés qui sont en apparence les miennes, mais il est très important parce que c'est quand même... On donne énormément de notre vie pendant 20 ans et il faut que l'État assume ses obligations vis-à-vis de ces sportifs qui ont tout donné à leur sport, à leur pays, pour ceux qui étaient en équipe de France. Et ça, c'est important qu'on soit accompagné pour ceux qui en ont besoin, même pour ceux qui, comme moi, en ont eu besoin, mais qui n'ont pas eu l'opportunité ou le courage de prendre la parole comme aujourd'hui, de se dire et de dire aux autres, bon voilà, attendez, j'ai besoin d'aide, je tends la main et aidez-moi, quoi. Moi, j'ai toujours ce problème-là depuis tout petit, c'est que... Je n'aime pas montrer mes faiblesses. Je suis désolé d'avoir fait ça aujourd'hui. Mais vous êtes médecin et autres, vous devez comprendre. Hein. Il est psychologue. Mais donc, je me suis toujours battu tout seul. Donc, mais c'est une connerie monstre. Donc, si j'avais un témoignage à donner vis-à-vis d'autres sportifs qui sont un peu dans la même situation que moi, c'est que de ne pas craindre de se montrer tel qu'on est parce que c'est dur d'être tout seul. Voilà. J'ai mon juge qui est là, Serge, j'espère que c'est ce que tu attendais de moi. Donc c'est... Parce que,
on avait répété. Quand il m'a... Très bien. Le coup de Java Mafali, je prends mon temps, c'est 3 secondes suspendues. Là. C'était mieux qu'hier soir, ouais. Vraiment.
Non, mais parce que quand j'ai... Bon, je remercie Serge. Oui, je te remercie, Serge, de m'avoir invité aujourd'hui. Parce qu'au début, je ne savais pas pourquoi il m'a invité. Mais bon, je dis, bon, il voulait que je passe un petit moment avec lui, je le comprends, on ne se voit pas assez. Mais voilà, je voulais juste témoigner. Je ne sais pas si ça répond à tes attentes, mon Sergio.
Voilà, le modérateur dit oui. Question. Moi, j'ai jamais été sportif de haut niveau, sinon ça se saurait. Mais j'ai eu la chance d'être le médecin d'équipe professionnelle et de sélection nationale. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez décrit au travers de la bulle, parce que cette bulle, elle évolue. Et ce qu'a dit Serge aussi, c'est tout à fait vrai. Et moi, je l'ai vu évoluer aussi au cours des années. Et elle est de plus en plus serrée, cette bulle. Et elle touche les sportifs, mais elle touche aussi tous ceux qui sont autour d'eux. Vous avez parlé de la feuille d'impôt. Ben moi, c'est les accidents de travail. Hein. Maintenant, un sportif de haut niveau, ou qui se croit de haut niveau quelquefois, il veut rien faire, il ne veut pas remplir ses papiers, il ne veut pas avoir une vie en dehors de sa bulle. Et moi, j'ai toujours observé que ceux qui acceptaient, comme vous le décriviez, d'avoir, pas accepter, ce n'est pas le bon terme, mais qui avaient la volonté d'avoir une vie en dehors de la bulle, ce sont toujours des gens quand même qui ont souvent mieux réussi,
qui ont mieux rebondi et qui étaient plus équilibrés. Et ça, c'est pour moi un point important. Et la question qui vient, c'est l'inquiétude que j'ai, par contre, vis-à-vis des formations maintenant précoces, des centres de formation, et pourtant, je fais partie de ceux qui s'en occupent. Mais c'est vrai que quand on voit que dans certaines structures, on met des jeunes de 12, 13 ans ou 14 ans déjà dans des bulles, au niveau de la formation, au niveau de la scolarité, quand il y a de la scolarité, au niveau du sport, au niveau de la prise en charge pour aller chercher les médicaments, faire les commissions ou autres, là, ça m'inquiète un peu et je me demande comment ces jeunes, dans 15 ans ou dans 20 ans, sortiront de ce milieu.
Juste une réponse par rapport à ça. Je veux dire, moi, après, il y a un recul aussi du rôle des parents là-dedans, quand même. On ne parle pas assez des parents. De donner comme ça ses enfants à une structure qui les prend totalement en charge et qui les délaisse un petit peu de leur responsabilité, je crois qu'ils sont aussi très fautifs dans ces problèmes qui sont nouveaux peut-être. Et oui, c'est un gros problème d'éducation. Les gamins, maintenant, ils sont attirés par ce qui brille, par les stars, par l'argent et autres. Ils ne se rendent pas compte que le sport de haut niveau, quel qu'il soit, est lié de manière très étroite avec la blessure, avec l'arrêt soudain et brutal, et ça c'est très important. Donc il y a tout ce travail d'éducation qui est très important à faire, et au plus vite avec les enfants, et surtout peut-être aussi de la part de l'encadrement, enfin, que ce soit toutes les structures qui se montent maintenant, mais de donner cette conscience-là immédiate aux parents, et qu'ils l'ont peut-être, mais qu'ils ne l'assument pas forcément, parce que ça fait tellement rêver d'avoir, entre guillemets, un Serge Chimon, un Federer, un... voilà, les deux d'ailleurs, c'est le plus gros exemple dans sa famille. Mais se dire, voilà, il va réussir, mon fils, et il va nous sortir de. Bon, voilà. Donc, c'est. Je vous passe la parole.
Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Juste pour dire, sur votre souci lié à la précocité, je partage très largement votre point de vue et j'ai entendu parler assez récemment de la création de Jeux Olympiques pour les moins de 18 ans. Qui est un projet qui semble devoir voir le jour très rapidement. Effectivement, ça me paraît un facteur pour le coup de risque supplémentaire, puisque le déficit expérimental dont on a pu parler et dont Richard Dacoury et Serge Chimon ont peut-être pu se préserver, ce déficit expérimental, il risque d'être encore plus important plus ces jeunes rentrent tôt dans des structures et dans la bulle dont on a suffisamment parlé. Richard parlait... S'interroger sur le fait qu'il y ait peut-être une question d'époque aussi, Serge aussi, et je voudrais simplement rebondir là-dessus pour dire que ça a été, bon, on n'a pas eu le temps de tout développer, mais dans l'étude Proval sur les anciens rugbyman pro, ça a été une très grande surprise pour nous, parce qu'en prenant des joueurs qui avaient été pro jusqu'en 2000-2004, on pensait trouver quand même une génération de joueurs assez proche de celle actuelle, et une de nos grandes surprises, ça a été de nous rendre compte de l'effet génération qu'il y avait sur ces quelques joueurs-là qui étaient pourtant sortis du système il y a très peu de temps, parce que juste un chiffre qui est quand même très très important, il y avait 90% d'entre eux qui étaient plus réactifs pendant la carrière pendant leur carrière pro. Et là on voit à quelle vitesse la bulle a pu se refermer, et un des risques de ce refermement de la bulle, en tout cas dans le rugby pro aujourd'hui, on le voit très clairement, très nettement, les jeunes en activité, enfin certaines déclarations publiques de membres de l'équipe de France par exemple, expliquent comment très rapidement, disons dans le meilleur des cas juste après le bac, le choix s'impose. C'est-à-dire que ce loisir de pouvoir, au fond, continuer à poursuivre un cursus scolaire et d'aller faire ses courses, il devient vite, à un moment, on doit faire le choix. J'ai l'impression que cette bulle, de plus en plus tôt et de manière de plus en plus massive, elle se referme. Donc c'est un risque. Je profite juste d'avoir la parole pour deux autres points pour répondre sur la notion de fin de carrière. Je comprends que ce soit un mot qui puisse pas être très agréable. D'abord, il y avait une question un peu presque technique. La fin de carrière, c'était mon employé ce terme pour parler vraiment de cette période, de ce moment où la pratique sportive s'arrête. Même si elle peut reprendre après, prendre d'autres formes, mais un moment où voilà, une carrière, qu'elle soit professionnelle ou en compétition, simplement, c'était pour marquer un peu ce moment où ça s'arrête. Néanmoins, même s'il me déplaît moins qu'à vous, c'est aussi parce que ce qui ressort très clairement des témoignages des gens qu'on a pu rencontrer, et encore une fois notamment des rugbyman pro, c'est justement cette nécessité de tourner la page. Avec cette double idée qui est un moment accepté, qu'il y en a une qui se referme, et qu'on en écrit une autre. Alors le livre est toujours, pour continuer dans l'image, le livre est toujours le même, celui d'une, de la vie d'une même personne. Mais cette importance, en tout cas eux l'a souligné, de devoir accepter d'en tourner une pour en ouvrir une autre, et d'ailleurs d'où l'importance de la préparation de cette autre page aussi, de commencer à écrire quelques lignes pour ne pas repartir sur une feuille blanche, si je peux aller au bout de l'image. Et dernier point, et vraiment je finirai là-dessus, vous parliez aussi de la nécessité que... On se disait tout à l'heure, effectivement, c'est des vœux pieux que de préparer l'arrêt, parce que l'institution sportive, elle fonctionne différemment, mais vous disiez aussi que l'État doit prendre ses responsabilités, et effectivement, et l'institution sportive doit prendre ses responsabilités. Et peut-être que, enfin, à un moment, peut-être qu'il faut faire un choix entre une idéologie de la performance qui fait que, voilà, on doit s'y consacrer à 200% et on doit fermer cette bulle. Peut-être que c'est bon pour la performance, mais effectivement, il y a un devoir moral aussi, que de s'occuper de l'après, et de ce point de vue-là, voir les difficultés qu'on a pu avoir pour retrouver, pour simplement avoir le nom des rugbyman pro sortis du secteur pro entre 2000 et 2004, on ne parle pas d'il y a très longtemps, le temps qu'on a eu pour simplement pouvoir les identifier, ça montre à quel point, au fond, l'institution sportive, quand même, très rapidement, une fois qu'on en sort, il y a quand même un manque de considération, on va dire, pour tous ces anciens champions qui en sortent. Et ça, il y a un vrai devoir moral.
Il y a plusieurs questions.
Par rapport à la question, simplement pour dire une chose, que tout ne va pas dans le sens de ce que vous dites, monsieur. Il existe à Bordeaux une association qui s'appelle Bordeaux Sport, qui vient de se constituer, dont je fais partie, qui est le rassemblement des 12 plus grands clubs de Bordeaux. Et l'idée, c'est justement celle que je soulignais tout à l'heure, c'est de laisser les sportifs dans leur milieu, dans leur famille, dans leur environnement social, dans leur environnement sportif, et de négocier avec l'académie et avec la ville des horaires aménagés dans les collèges et dans les lycées, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils aillent ailleurs, qu'ils restent sur place. Et savez-vous quelle est l'une des difficultés ? C'est de faire accéder les familles à l'idée que leurs enfants puissent rentrer dans ce qu'ils imaginent être le sport de haut niveau, c'est-à-dire dans la rupture. C'est-à-dire que leurs enfants aient un temps aménagé pour faire du sport dans une harmonie sociale et familiale. Pour eux, non, le sport suffisamment intense se fait ailleurs, dans des centres ailleurs, et avec la rupture. C'est-à-dire qu'il y a une représentation sociale qui met le sport dans cette bulle plutôt que d'être dans l'interrelation sociale.
Je vais passer le micro pour la question à Frédéric. Mais juste, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je voulais apporter un écho à votre désespérance, ou en tout cas désarroi par rapport à la possibilité de modifier les choses. D'abord, bien sûr, on peut modifier les choses, toutes les choses, et celle-là en particulier. Mais effectivement, on s'attaque à des forces puissantes et qui s'articulent sur ce que vient de décrire Pierre-Marie, c'est-à-dire une représentation sociale extrêmement forte. Et dont on est tous acteurs. On a tous une dichotomie qui est, on est acteur du sport, soit parce qu'on est consommateur, on lit, on va festoyer quand l'équipe de France de foot est championne du monde, soit parce qu'on est sportif. En tout cas, le sport fait partie intégrante de quasiment tout le monde. C'est difficile d'y échapper, surtout dans les événements mondiaux, planétaires, comme les Coupes du Monde. Mais on est tous attachés à une idée du sport. Peu de gens n'aiment pas vraiment le sport, c'est vraiment une minorité. Et on a une représentation, si on y est attaché, si on n'est pas spécialiste à se creuser la tête sur les aspects négatifs du sport, l'attachement est lié et forcément positif. Forcément positif. Et cette représentation, donc cette dichotomie que nous avons, nous, les autres ne l'ont pas, c'est ils sont, la plupart des gens sont dans une positivation maximum du sport, avec donc, on pourrait appeler une cécité, un aveuglement sur tous les effets délétères. Et ce genre de journée, c'est la première. On a tous participé, les acteurs de ces journées, à des conférences où on voit bien qu'on se heurte à une bonne foi, une sincérité des acteurs de sport, quand on vient leur dire que oui, mais c'est pas si beau que ça, oui, mais les débuts moi, des conférences là-dessus dans les années 2000, je me faisais pas insulter parce que je fais 110 kilos, mais je sentais bien que si je faisais pas 110 kilos, ça en avait énervé plus d'un, parce que vous adressez à des bénévoles, vous adressez à des parents, vous adressez à des gens qui, de bonne foi, ont voué leur vie ou la vie de leurs enfants à ces objectifs, et vous venez leur dire que c'est pas si simple, que c'est pas si beau, et voire même qu'ils font quelque chose qui peut être délétère. Donc ces résistances sont puissantes. Mais peut-on les modifier ? Oui, on peut les modifier. Un, ça s'appelle la politique,
ça s'appelle la politique sportive. L'institution sportive, elle obéit à une politique qui est donnée par le plus haut niveau de l'État, le ministère ou le secrétaire d'État, qui doit donner des signaux forts. Et là, je pense qu'il y a une possibilité d'action. L'élection est passée, les signaux forts auxquels je pense, je ne pourrais pas les... les laisser sous-entendre à celui ou celle qui aurait pu les faire, mais il va y avoir un nouveau ministre ou un nouveau secrétaire d'État ou une nouvelle secrétaire d'État. Il a le devoir de donner des signaux forts. Et c'est vrai que pour côtoyer un peu les cercles de la politique sportive, on est un peu démuni par rapport au manque de considération de ce genre de problématiques, parce que, et c'est pour ça que je dis que ça rejoint ce que dit Pierre-Marie, le politique veut rentrer de suite en résonance avec soit son côté consommateur ou acteur du sport, soit la représentation sociale. C'est-à-dire un ministre qui viendrait et qui dirait « Bon, moi, le sport de haut niveau, les gars, c'est pas mon truc parce que ça fait des dégâts. » En 2 heures, il est viré du gouvernement, c'est clair. C'est le Schwarzenegger du sport. Il fait un jour et il dégage. Parce qu'on veut tous des médailles, parce qu'on veut tous être champion du monde, parce que, etc., etc. Mais il y a des moyens de faire. Il y a des moyens de faire avec des leviers puissants, parce que les personnes clé de tout le dispositif, et on l'a dit ce matin, vous l'avez sous-entendu dans les témoignages de votre exposé, et on le dit là aussi, le personnage clé du dispositif, c'est l'entraîneur, le cadre. Le cadre, il obéit à une formation, il fait partie d'une institution. Et si dans son message, et là je pense à ce personnage extrêmement atypique, et pour ne pas employer des mots un peu durs de Philippe Lucas, si ce genre de personnage avait dans sa formation quelque chose de plus complet, qui, dans ses objectifs, vise la performance, qui est le tapis roulant de l'institution sportive, qui est le moteur, qui est l'essence de l'institution sportive, mais si dans sa formation, qui, encore une fois, des cadres sportifs, est quasiment purement technique, on l'étoffait de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement individuel, des outils de détection des difficultés, des pièces, n'est pas là, mais il parlait de ce carnet intéressant par rapport aux troubles du comportement alimentaire chez les entraîneurs, parce que toutes les résistances que l'on rencontre dans notre domaine de la psychopathologie ou de la santé en général, et le docteur Roche-Congar ne me contredira pas, c'est d'aller contre l'entraîneur. C'est à un moment donné rentrer dans son cercle de pouvoir. C'est à un moment donné atténuer son pouvoir. C'est à un moment donné rentrer en collision avec ses intérêts. Ses intérêts qui sont l'immédiateté, qui sont la performance, qui sont joués dimanche, pour ceux qui jouent dimanche. Enfin, tout ça, la compétition immédiate, c'est gagner. Si on arrivait à agir sur ce levier-là, il n'y en a pas 10 000, il y en a un. C'est le cadre technique et l'entraîneur. Et ça ne va pas être bien compliqué. Il faut une très forte volonté politique. Il faut être habile pour la faire passer. Mais il y a d'autres choses à faire dans le champ de la politique sportive. Mais en tout cas, pour la reconversion, pour l'épanouissement, pour le sujet qui nous importe aujourd'hui, cette personne-là est capitale. Si c'est les médecins qui viennent lui parler, c'est très difficile. On y arrive. Hein. On a mis 6 ans au CAPS à rentrer dans des cercles sportifs. Si c'est l'institution qui lui parle, je pense qu'il écoutera plus. C'est vraiment le bras de levier idéal pour faire évoluer les choses et désincarcérer le sportif de cette bulle.
Quand on parle de compétition sportive, on va dire la France contre l'Allemagne, c'est même pas l'équipe de France de X ou l'équipe d'Allemagne de tel sport. Et les termes aussi usités, tue-le, enfin bon, ils disent revenir à la vie civile. Donc je pense que effectivement, les jeunes ne sont pas forcément conscients que quand ils rentrent dans un centre de formation agréé, c'est une forme d'armée qu'ils intègrent. Et moi qui les visite en tant que médecin conseiller, il y a certains sports où c'est vraiment très clair, quoi. Enfin, on leur impose, il y a un régime qui est militaire. Et la sortie, par contre, quand... C'est ce que disait Richard, quand ils ont donné beaucoup pour dans ce cadre-là, eh bien, on leur met pas forcément une plaque sur une rue, comme le général Leclerc, ou enfin, bon, qui doit avoir une rue dans chaque ville de France. Donc, je dis pas tous les militaires en ont, mais on n'est pas à ce stade de reconnaissance. Dès qu'ils ont quitté le milieu du sport, la reconnaissance, elle s'estompe très vite. Je pense que là, il faut réfléchir peut-être, c'est un point de vue tout à fait personnel, il faut réfléchir un petit peu à ça, à ce transfert, puisqu'on ne déclare plus la guerre aussi facilement. Mais les médailles, pour moi, c'est l'expression d'une force de puissance de frappe, quoi, d'intimidation par rapport aux autres pays. Donc, je suis en même temps un petit peu pessimiste par rapport à l'évolution, loisirs, fêtes, etc., du sport. Mais c'était une remarque.
Un vrai champion digne de ce nom, et c'est quelqu'un qui respecte les règles déjà, hein, qui est fair play, qui a une... Toi, c'est toute cette dimension-là, à la fois physique et psychologique, quelqu'un qui réussit éventuellement, mais pour rien au monde, moi, en tant que... Et ce n'est pas juste une déclaration comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens et ce en quoi je crois au plus profond de moi-même. C'est quelqu'un qui a valeur d'exemple, et pour rien au monde, j'irais imaginer me doper pour être meilleur. Jamais, moi j'ai jamais eu cette dimension-là. Si pour décrocher un titre j'avais dû tricher, je n'aurais absolument tiré absolument aucune gloriole, enfin aucun plaisir, tu vois. C'était d'être le meilleur, mais en respectant malgré tout une la règle, c'est essentiel. Et ceux qui trichent et qui débordent, bon, ont tort, ils n'ont absolument rien compris au sport. Fait partie du message qu'il faut donner aux autres. En revanche, c'est très compliqué maintenant parce que tout le monde ne respecte pas la règle. Après, c'est une fois de plus, peut-être c'est le rôle des États, des institutions, de l'encadrement du sport, d'imposer sans hypocrisie un règlement et d'arrêter de se fermer les yeux et de se dire, voilà, pour le bien de la nation, eh bien, on va laisser passer. Non, il faut trancher dans le vif, se couper un bras s'il faut, mais il faut imposer ça. Donc, ça, c'est pour nos enfants, pour qu'ils comprennent que voilà, tricher, c'est pas bien. Et le sport a des valeurs qu'on met en avant en permanence, mais il faut les faire respecter, je suis désolé, sans tyrannie, sans autre chose, mais c'est une question de moralité, une question d'éducation, une question de limite. Oui, c'est tout simplement ça. Je termine juste. Je suis d'accord au niveau international, d'accord, mais c'est là que je remets aussi très clairement. Serge a parlé de l'encadrement, des entraîneurs à haute, et il a très bien parlé, un petit peu trop long d'ailleurs. Mais je mets aussi les parents, je suis désolé, moi, les parents, ils ont un rôle central dans l'éducation. En ce moment, les parents, pas pour tous, bien évidemment, éduquent très mal leurs enfants. Ils se déchargent sur toutes sortes de structures pour. C'est une erreur fondamentale. Moi, je crois que j'ai cette forme de moralité haute. Grâce à mes parents, grâce à ma mère, grâce à ces gens-là qui m'ont donné ces valeurs-là. Et c'est très, très important. Il faut remettre les parents au centre de toute l'éducation des parents. Voilà. Des enfants, pardon. Non,
c'est fini. On arrête ici. Il y a plein de questions intéressantes. Je les sentais venir toutes, mais voilà, c'est fini.